Philosophie éthique, éthique chrétienne, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 6 novembre 1998, à Saint-Jotard.
Pouvez-vous nous parler de la place de la cause exemplaire dans l'éthique chrétienne? Si le philosophe voit le Christ comme modèle et pas comme fin, et non pas comme Dieu, il le voit comme un homme exemplaire. Envoyé de Dieu. Il me semble que c'est susceptible de fausser toute sa vision de l'agir moral. Du chrétien. Faisons attention. Philosophe qui l'a fait avec le respect de ce que dit la foi, mais sans la comprendre comme un fait. Il constate que de fait, avec le Christ, il y a eu quelque chose de changé dans beaucoup d'hommes. Il ne veut pas l'expliquer. Parce qu'il veut rester philosophe. Il le constate. Il constate que je puis regarder ma morale et changer. Qu'elle a une nouvelle dimension, ce que nous allons essayer de voir. Que cette dimension ne supprime rien à la grandeur de l'homme. C'est pas la même chose, puisque Socrate n'était pas Dieu. Mais il agissait comme quelqu'un qui avait perçu avec une acuité nouvelle le point de vue de l'âme spirituelle, que ça valait la peine de donner sa vie. Quand on respecte le reste, en disant « je ne le comprends que par la cause exemplaire », je ne la comprends pas comme un principe que je reçois, puisque je ne peux pas le recevoir comme un principe humain. Le Christ reste un exemple surhumain pour les hommes. Dans l'éthique chrétienne, en étant le principe propre. reste toujours caché. Donc, si au-dessus, un dépassement. Et pourrait-on dire donc que l'éthique chrétienne n'atteint pas le niveau de la science au sens précis ? Elle atteint un niveau descriptif comme la philologie. Je décris la mort du Christ. Et je peux essayer de la manifester dans une description. Et je ne la comprends pas dans ce qu'elle a de tout à fait propre. Seul le croyant peut, dans la foi, adhérer et le vivre. Mais celui qui ne la regarde pas de l'intérieur ne la comprend pas. Mais peut être en admiration dans cela. Statut philosophique très particulier, mais qui est d'autant plus intéressant qu'il est unique. Et qui exige une objectivité très limpide, très pure. Mais je crois est humaine, parce que l'homme est un animal religieux. L'éthique humaine est religieuse. Et c'est l'éthique religieuse qui me permet Merleau-Ponty pas assez loin au plan métaphysique. Il considère que l'incarnation est impossible au niveau humain. Elle est impossible au niveau humain par l'homme, mais elle n'est pas impossible par Dieu. Elle est purement gratuite. L'homme n'a jamais mérité l'incarnation. Le mystère de la très sainte Trinité n'est pas impossible. Il n'est pas contraire au monothéisme. Il dépasse. Il faut une révélation spéciale de Dieu. Elle n'est pas impossible. Mais c'est très très délicat, toutes ces distinctions entre la foi dans le mystère de l'incarnation et une vision de l'homme au plan philosophique et au plan philosophie religieuse. Et l'éthique religieuse ouvre, montre comment l'homme est ouvert à Dieu, comment l'homme est pour Dieu. Ça, c'est l'éthique. L'homme n'est pas détruit par Dieu, au contraire, il n'existe que grâce à lui. Ça, c'est l'éthique religieuse. Donc, dans l'éthique religieuse, voyez, il y a ce respect de faire passer devant Dieu et la volonté de Dieu. Ça, c'est l'éthique religieuse. Adorer reste un acte humain. Parmi les actes humains, l'adoration est le plus grand acte humain. On peut aller plus loin, puisqu'on peut parler de contemplation de Dieu. Et la contemplation de Dieu sera un acte encore plus humain que l'adoration. Et présuppose l'adoration. Je ne peux pas contempler Dieu sans l'adoration. Éthique religieuse. Et voyez, l'adoration est là pour permettre de passer de l'exemplarité à la finalité. Et donc de passer de Jésus modèle pour les hommes et de Jésus comme envoyé par le Père. Et je crois que ces questions ne voient pas suffisamment jusqu'où peut aller l'éthique religieuse. Cette recherche que nous faisons de la manière d'exister de Dieu crois qu'on peut le dire. C'est une éthique d'attente. Pour celui qui ne croit pas, pour les philosophes. C'est une éthique qui, si j'accepte le Christ, devient merveilleuse pour moi. Mais le Christ, sans la foi, apparaît toujours comme un homme idéal. Aristote aurait été présent à la mort du Christ. Qu'est-ce que ça lui aurait fait? Il n'aurait pas été insensible à la mort du Christ. Je crois que c'est impossible. serait aller vers l'inconnu. Tandis que pour Jésus, la mort n'est pas l'inconnu. Il est bon pour vous que je m'en aille. Je vous enverrai le paraclet. Et donc la mort du Christ est un passage nécessaire pour que Jésus accomplisse jusqu'au bout sa mission. Et c'est lui-même qui dit, sa mission ne sera accomplie que par sa mort. Tout l'épître aux Hébreux montre ça. Les miracles prennent là une la vie humaine en lui permettant un dépassement, une vie surhumaine. Je crois que l'éthique chrétienne consiste, au point de départ, à affirmer par la mort du Christ et sa résurrection que Jésus est venu apporter aux hommes une nouvelle lumière sur ce qu'est l'homme. Et cette nouvelle lumière sur ce qu'est l'homme, c'est de montrer que sa mort nous sauve du péché, de ce premier péché d'orgueil qui rejaillit sur toute la race humaine. Parce que Dieu a voulu que Adam soit chef de l'humanité, soit tête de l'humanité. Dieu aurait pu réaliser la chose autrement. Il l'a voulu comme ça. Voyez que les conséquences de la rupture montrent bien que le péché originel, je ne peux pas le supprimer. Il est là attesté par Jésus. Proclamer la gloire du Père. Il y a toujours les deux. Et que seul quelqu'un qui n'est pas de la race d'Adam peut réaliser ce salut envoyé directement par Dieu. Et que ce quelqu'un se dit Fils bien-aimé du Père. Donc, se dit quelque chose de très nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a comme un arrêt et une reprise. L'arrêt, c'est la mort du Christ, et la reprise, c'est le fruit de cette mort qui se réalisera et qui se manifestera par la résurrection. En ce sens-là, la résurrection témoigne de l'authenticité de la mort du Christ. S'il n'y avait pas la résurrection, la mort du Christ resterait avec un grand point d'interrogation. Au point de vue philosophique, le philosophe qui regarde le mystère du Christ, qui regarde le mystère de ce fondateur, qui reprend toute l'humanité dans une voie nouvelle, achève le point de vue religieux de l'homme, puisque ce renouveau, c'est Dieu lui-même qui le dirige en envoyant son Fils, en demandant à son Fils d'accomplir cette mission, sauver l'humanité, et que l'Église vient pour accomplir cette mission. Fidèlement, qu'il l'accomplit pleinement. Et la confirmation de sa mission, c'est la résurrection. Sa résurrection. parce que elle est au-delà de la mort. Toute logique humaine est dépendante de la mort. Et elle ne peut pas se servir de la mort. Ce qu'il y a de tout à fait unique dans la mort du Christ, vu d'un point de vue philosophique, c'est que le Christ agit comme maître de la mort. Et donc, sa mort n'est pas un suicide. Sa mort est un holocauste d'amour. Seul le maître de la mort peut se servir de la mort celui qui l'envoie, son père. La mort est un suicide quand justement on n'est pas le maître de la mort et quand on est soumis à la mort. Tandis que Jésus, lui, n'est pas soumis à la mort. Il en est le maître. Il accepte alors à ce moment-là de témoigner que la mort n'est pour lui qu'un passage qui lui permet de nous sauver et de glorifier le Père. C'est tout le mystère de la mort du Christ, vu dans la lumière de la résurrection, qui est propre. La résurrection. Vous voyez, son obéissance filiale et glorifier le Père par l'offrande de sa vie. Ce qui n'aurait pas existé si ne dominait pas la mort et si la résurrection n'aurait pas été là. Sagesse chrétienne, de voir comment la conséquence du péché, la mort, est prise comme moyen de témoigner qu'il reprend tout, qu'il crée et que Jésus crée une alliance nouvelle avec les hommes. Yeah.